19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, ravi de vous retrouver, quel plaisir d'être ensemble chaque soir, ici même quotidiennement, dans les informés. Alors au menu, c'est parti, vous le savez, durant une heure jusqu'à 20h, d'abord deux débatteurs, le face-à-face, qui viendront confronter leur point de vue, vous le savez, sur trois sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Je veux parler des présidentielles parce qu'il y a un vrai problème d'obtention des parrainages. Zemmour et Marine Le Pen, eh bien ils risquent de quitter peut-être cette campagne. Eh bien on va en parler. Parce que Zemmour, lui, pour le coup, il est vraiment préoccupé. Mais ça pose surtout une question fondamentale. Le vote la chose citoyenne, c'est-à-dire comment changer le système et de faire en sorte de le rendre plus démocratique. Ensuite, autre sujet. Le sujet qui a retenu notre attention, c'est Mélenchon. Mélenchon qui, paraît-il, peut rassembler la gauche. C'est la question qu'on va poser. Un autre sujet aussi, c'est le sujet de cette guerre probable en Ukraine. Ça y est, les tensions sont en train de prendre de l'ampleur. Mais surtout, chers amis auditeurs, c'est que la guerre est tout proche. Et que, est-ce qu'on peut parler d'échec d'Emmanuel Macron, évidemment, avec les différentes tractations en tant que qualité de président du Conseil européen. Et puis Biden, qui est qui regarde tout ça et puis qui se dit, voilà, je suis prêt. On en parle tout à l'heure. L'invité du jour, vous le savez, chères mesdames, chers messieurs, direction l'Algérie, parce que il y a eu cette révolution, souvenez-vous, on l'a couvert ici même sur l'antenne. Et puis Saladja Akrouf, que je ne présente même plus, qui sera avec nous dans une poignée de minutes pour nous parler des 3 ans du Hirak. Oui, 3 ans déjà, que le temps file. 19h02, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et vous le savez, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité du jour, c'est parti.
Les informés, l'interview.
L'interview, c'est avec Saladja Akrouf. Bonjour Saladja Akrouf.
Oui, bonjour Adil.
Souvenons-nous, elle avait écrit un ouvrage qui s'appelle « Algérie, la seconde révolution » aux éditions Coucou avec Patrick Farbiaz. « Laissez une trace pour l'avenir », c'est ce que vous aviez dit d'ailleurs, la seconde révolution. On est aujourd'hui, Saladja Akrouf, à cette 3e année du Hirak. J'ai envie de dire, en Algérie, comme ici, auprès de la diaspora, vous allez nous parler de ces différentes arrestations, mais surtout, est-ce qu'il y a une fête de prévu pour marquer ces 3 ans après le début de la contestation en Algérie? Je fais référence au Hirak, Saladja Akrouf.
Je ne sais pas si on peut fêter ça. On ne peut pas fêter quand il y a 350 prisonniers politiques en Algérie. On ne peut pas parler de fête dans ce cas-là. On peut fêter le fait que le Hirak, malgré tout, malgré les difficultés, malgré tout ce que peut vivre le peuple algérien,
oui,
nous avons quand même pu sortir un des plus grands dictateurs. Ce n'est pas Gaïd Salah qui a chassé Bouteflika, c'est le Hirak, c'est le peuple algérien qui a chassé Bouteflika. Ça, il faut que l'histoire le retienne.
Et c'est bien, évidemment, de le dire sur l'antenne.
C'est important. Nous avons effectivement gagné une chose. Nous avons gagné que le peuple algérien, il a su un jour casser la peur. C'est-à-dire, pendant les années noires, pendant les années de répression, dans les assassinats dans les années noires, ensuite les années de Bouteflika, les gens avaient peur de sortir manifester dans la rue.
Qu'est-ce que vous dites?
Le Hirak a permis de casser la peur.
De casser la peur. Qu'est-ce que vous dites, Saladja Akrouf? Vous êtes auteur, écrivaine, vous êtes également aussi féministe et on vous connaît. Une des figures emblématiques de ce Hirak, vous vous êtes battue d'arrache-pied. Les militants exilés, notamment. Je veux parler aussi, vous savez, de tous celles et ceux dont les rêves ont été brisés. Je veux parler aussi de celles et ceux des dizaines et des centaines d'arrestations. Où en est-on aujourd'hui, Saladja Akrouf?
Oui, on a gagné dans un sens, mais malheureusement, ce pouvoir, il est chanceux. Il y a eu la pandémie qui est venue donner un coup d'arrêt. Ça, c'est la réalité. Et ce coup d'arrêt, il est international. Il n'est pas propre au Hirak. Hein. Donc ça, effectivement...
Sauf que la liste des détenus d'opinion, elle s'allonge, non? Ou je vous pose la question.
Non, mais la liste des détenus, on est à 300, plus de 300 détenus. Je veux le dire parce que les gens qui pensent que ceux qui sont les harakis, ce qu'on appelle les harakis, veulent détruire l'Algérie. Nous voulons la liberté, nous voulons que les citoyens aient le droit de s'exprimer. Nous pouvons ne pas être d'accord avec eux. Mais vous savez, M. Adil,
oui,
qu'il y a des jeunes qui sont en prison pour la simple raison parce qu'ils ont liké. Mmh. C'est-à-dire, il y a un qui a mis un post où il a dit, par exemple, généraux, dictateurs, un qui a liké, qui se retrouve aujourd'hui en prison.
Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est pour semer la terreur? Je vous pose la question.
Oui, ils sont en train de terroriser les gens. Le problème, c'est combien de temps ils vont continuer à terroriser les gens? Combien de temps? 10 ans? 20 ans? Eh bien, au bout de 20 ans, il y a des millions de gens qui étaient dans la rue. Le problème, je termine juste.
Bien sûr, je vous en prie.
C'est-à-dire, là, ils sont sortis de la Silmia et on est content que les gens sortaient avec des drapeaux et des chants, etc. Là, le problème, c'est que si ce pouvoir continue à dilapider le pays et à bâillonner et à emprisonner, ça ne sera pas la Silmia, malheureusement. Ça sera la guerre. Quand lui, il est en train de dénoncer les harakis de vouloir la guerre, c'est lui qui est en train de donner toutes les raisons pour que ça ne sorte pas dans la Silmia organisée.
Sanadia Akrouf, je vous pose la question aujourd'hui. On est à quelques heures, quelques jours des 3 ans du Hirak, du lancement donc de cette révolution populaire. Dites-moi, Sanadia Akrouf, est-ce qu'aujourd'hui les Algériens peuvent exercer sans peur, sans crainte, leur droit de liberté d'expression, de liberté d'opinion ou tout simplement de manifester?
Non. La réponse est non.
Ah oui.
Plus que pendant toutes les années de plan, plus jamais, on avait vécu probablement, j'étais jeune, les années boumédiennes, mais jamais autant qu'aujourd'hui où les gens ne peuvent plus se réunir. Il y a un jeune qui est manifestant blogueur, il s'est fait arrêter il y a 3 jours. Il y a 3 jours, tout ça parce qu'ils vendent des informations. Et il y a des journalistes qui sont en prison. Même pas des harakis. Il y a un journaliste qui habite à Taman Rasset, il a écopé de 1 an de prison pour avoir couvert. Il n'a pas manifesté. La répression, elle est féroce en Algérie. Nous ne pouvons pas être pour les droits humains, pour les droits de la liberté de la presse et être silencieux par rapport aux journalistes qui sont bâillonnés, qui sont emprisonnés en Algérie. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible, évidemment. Je vous écoute attentivement, et nos auditeurs aussi d'ailleurs. À l'occasion de ce 3e anniversaire du Hirak, est-ce qu'on parle aujourd'hui d'une mobilisation de la diaspora pour marquer le Hirak cette 3e année?
Cette 3e année, d'abord, il y a eu une marche dimanche. La police parle de 3000 manifestants. Donc quand la police dit 3000, moi je pense 6000. Les organisateurs, certains qui affibulent et qui ne sont pas peut-être habitués à parler de 10 000 ou 15 000, mais je pense qu'on était quand même 6 000. Et c'est énorme dans une période où les gens sont démoralisés, où les gens sont... Même ici en France, moi je suis syndicaliste, on a beaucoup de mal à mobiliser. Ben, je trouve que c'était une marche magnifique, des femmes, des hommes dans la rue, des vieux, des chants en arabe, en français, en kabyle, c'était extraordinaire. Mais pour ça me paraît important, nous organisons un meeting le samedi 26. Ce samedi, avec la solidarité de tous les peuples qui sont en lutte, avec l'intervention du Chili, du Liban, du Soudan, du Mali, de la Palestine, pour dire que ce qui se passe en Algérie, ça concerne toute l'humanité. Comme il y a en 1954, il y a eu une solidarité internationale qui a aidé la l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, nous appelons nos amis, nos partenaires à nous soutenir.
C'est à quelle heure et où précisément, Sanadia Akrouf?
C'est samedi à partir de 14h à 18h au 29 boulevard du Temple. C'est la salle de la Bourse du Travail, c'est Métro République. Pour nous, c'est important.
Vous attendez beaucoup de gens, beaucoup de monde, beaucoup de, évidemment,
nous,
pour marquer.
Nous vous attendons, nous vous nous attendons massivement. Parce que pourquoi c'est important ça? Parce que quand il y a des gens qui sont en prison, ils savent ce qui se passe à Paris, à Montréal et partout dans le monde. Et ça leur remonte le moral. Ça leur remonte le moral de dire on n'est pas seul, on n'est pas... voilà, il y a des gens qui nous soutiennent à travers le monde.
Vous parliez de journalistes détenus aujourd'hui. Il y en a un auquel on pense, qui a couvert ici le Hirak sur notre antenne pendant toute la durée. C'est Khaled Drarini. Khaled Drarini, qui est un grand journaliste, hein, et je voudrais évidemment qu'on a reçu ici, il a témoigné quand, à la sortie de sa prison. Il nous a raconté un petit peu comment il a vécu les choses, et on voulait le saluer chaleureusement, puisqu'effectivement, c'est lui qui a couvert, évidemment, en direct, tous les jours quasiment, depuis Alger, évidemment avec tous les autres, mais là je parle du journaliste. Je vous sens, quand vous parlez, remonté. Pour quelle raison, Sanadja Akrouf?
Je suis remontée parce que on a un gouvernement, on a des responsables qui sont irresponsables. Un gouvernement qui a tous les moyens de rendre la vie agréable pour que les jeunes ne prennent pas les barques et meurent dans la Méditerranée. Au lieu de ça, il est en train d'enfoncer le pays. Et j'ai mal pour mon pays.
Est-ce que finalement, trois ans après le début du Hirak, même si vous avez répondu, je vous pose la question. Est-ce que les choses ont changé, notamment l'économie?
Non, ça a empiré.
Ça a empiré.
Ça a empiré, mais ça, à la limite, moi, c'est tout un chapitre parce que c'est pas propre à l'Algérie. La pandémie, elle y est pour beaucoup. Mais n'empêche que le choix, pourquoi ça, le choix est le même. On a enlevé Bouteflika, mais on a mis Tebboune, c'était un allié de Bouteflika. On n'a pas mis un jeune de 50 ans.
Est-ce qu'il reste un espoir trois ans après le Hirak?
Ben, il reste un espoir parce qu'il y a des gens comme Khaled Drarni, puisque vous le citez, qui continuent à militer et continuent à défendre ses idées malgré le fait qu'il est quand même menacé par la justice, j'ai envie de dire l'injustice plutôt. Et il y a des centaines, des milliers de militants qui continuent à croire en Algérie. Et Dieu sait que c'est difficile. Et j'ai une pensée particulière à ces grévistes. Vous savez, il y a 40 grévistes de la faim depuis le 28 janvier. Il y en a qui vont laisser leur vie. Pourquoi? Pourquoi ce pouvoir est autiste? Pourquoi ce pouvoir ne veut pas ouvrir une brèche? Pourquoi? Je ne comprends pas.
J'ai bien compris, Sanadja Akrouf, que vous allez rien lâcher.
Non, on lâche rien. Comme disait
Le rendez-vous
est noté. Le 26 février à 14h, de 14h à 18h à la Bourse du Travail. Donc j'ai donné l'adresse, et le 29 boulevard du Temple au métro République. La Bourse du Travail, c'est important pour nous parce que la lutte, les syndicalistes, ils ont leurs alliés, c'est-à-dire le patronat et les présidents des républiques. Nous avons nos alliés, le peuple français, les syndicalistes, les militants associatifs.
Sanadja Akrouf, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle votre ouvrage « Algérie, la seconde révolution » aux éditions Coucou avec Patrick Farbiaz. Merci Sanadja Akrouf et rendez-vous donc noté pour samedi prochain. Merci.
Merci.
19h14. Allez, vite, parce que je suis à la bourre. On marque une pause et on se retrouve avec les débatteurs, influenceurs, Pierre-Henri face à Jean-Pierre Colombiès. A tout de suite, et puis 01 53 48 3000 si vous souhaitez réagir. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h20, si vous venez de nous retrouver, le standard est ouvert. 01 53 48 3000, vous le savez, les informés, c'est aussi vous. Le standard, rappelons le numéro, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et le standard est inondé déjà par les nombreux appels qui nous parviennent de toute la France. Je vais les prendre dans une poignée de minutes. Je voudrais présenter le face-à-face. C'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Ancien commandant de police, auteur, pièce de théâtre, Jean-Pierre Colombiès, bonjour.
Bonjour, David.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Ça se passe bien, la petite pièce de théâtre, là?
Ça se passe. Ouais. C'est toujours compliqué dans une période où les gens ont encore quelques craintes à revenir dans les salles. Donc
c'est vrai.
Il faut aller les chercher. Il faut aller...
Rappelons la salle. Rappelons la salle et quand.
Alors la pièce se nomme Le Testament d'un communard. Donc, pour un ancien policier, c'est vrai que c'est peut-être une gageure.
Oui.
Ça se joue au théâtre du Darius Milhaud dans le 19e et c'est aussi l'occasion d'échanger avec les spectateurs.
Allez-y,
qui nous font
allez-y,
l'honneur de venir
allez-y,
assister
allez-y.
À ce spectacle.
Eh bien, fraîchement nommé, il y en a un que vous connaissez sa voix en tout cas, il s'appelle Pierre Henry. Je dis fraîchement nommé parce que dans le mouvement pluriel, hein, incarné évidemment par Karim Amlal, mais aussi également Emmanuel Macron, le porte-parole d'Emmanuel Macron, ça y est, il est avec nous. Bonjour Pierre Henry, félicitations.
Bonjour Adil, et toujours un plaisir d'être avec vous et sur Beurre FM.
Toujours partagé.
Que je retrouve chaque...
Là, ça y est, vous êtes entré en campagne là, ça y est.
Samedi et chaque dimanche. Non, à la fonction de porte-parole du mouvement pluriel, qui est un mouvement de la société civile et qui... Si je peux résumer en quelques mots, qui vise tout simplement à faire aimer la France telle qu'elle est, c'est-à-dire plurielle, dans sa diversité, et à proposer un certain nombre de mesures de lutte contre les discriminations et pour la promotion des talents.
Eh bien, on en parlera évidemment ici même durant la campagne, et puis on continue de la faire vivre ici même. Messieurs, on va parler de des obtentions, des parrainages, vous savez, la campagne. Mais est-ce que vous voulez qu'on aille direction le stand-up? Parce que j'aimerais quand même entendre quelques auditeurs.
Eh ben,
allons-y.
C'est vous le maître, Adil.
Je sais bien, mais est-ce que vous êtes prêts à échanger aussi? Tiens, je vais aller écouter Assina de Paris. Bonsoir, Assina.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, ma chère Assina, on vous écoute. Bienvenue. Assina.
Merci. Alors, j'aimerais répondre à la dame qui vient de parler.
Oui.
Elle parle de Tebboune, le président Tebboune. Je voudrais lui dire que Tebboune, personne ne l'a mis. C'est nous qui l'a choisissons. Oui. J'ai voté pour lui, ainsi que beaucoup de citoyens. On l'a pas mis. Il a été élu par un vote légitime, respecté les citoyens algériens. Je parle à cette dame, respecté. Oui. Les citoyens algériens. La deuxième chose.
Oui.
Je voulais dire aussi qu'elle a parlé de la révolution 45 et révolution, etc. Plutôt 54, pardon.
54, oui.
C'était pas une révolution, c'était une guerre de libération. Comment on appelle ça? Les révolutions. C'est des révolutions enfin, je ne sais pas comment vous le dire, mais je reste dans le sujet. Là, je voudrais dire aussi, l'Algérie, elle est visée. Elle est visée par le nouvel ordre mondial et qui veulent la faire tomber.
Bon.
Et tous ces gens-là, c'est des pions.
Voilà, comme quoi, toutes les opinions, évidemment, ont une liberté sur notre antenne. Assina, vous l'avez exprimé. Voilà. Merci Assina d'être intervenue à l'antenne et d'avoir évidemment livré votre point de vue. Je vais vite parce que on a du monde. Auria, bonsoir Auria.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Auria nous appelle de Lyon, je vous écoute Auria.
Oui, bonsoir. Donc effectivement, en ce qui concerne le sujet de l'Algérie juste avant, malheureusement et régulièrement, je dirais, même si ce président a été élu par les citoyens algériens, ce que je conçois, aujourd'hui, il y a encore toujours cette méfiance de ce pouvoir en place et effectivement ces abus, les emprisonnements abusifs et tout ça. Mais en espérant effectivement que ça se développe différemment, qu'il y ait cet esprit d'équité dans le peuple, parce que finalement c'est toujours les mêmes qui ont plus et toujours plus. Maintenant, c'est pas nouveau. Il fallait s'y attendre. De toute façon. Comme elle dit cette dame précédemment, et comme disait la journaliste, je suppose que c'était une journaliste, n'est-ce pas ?
Non, c'est une féministe. C'est une actrice d'association, mais également aussi, c'est une des grandes figures du Hirak, il faut le rappeler.
Voilà,
et elle a écrit un livre.
Voilà, donc effectivement, son parcours est aussi positif que, je dirais, que cette dame qui vient de s'exprimer. Il faut éventuellement modifier tout le système de corruption en Algérie pour pouvoir éventuellement se dire enfin les gens vont pouvoir respirer.
Eh ben merci.
Mais, Voilà, je vous en prie, messieurs, passez une agréable soirée.
Agréable soirée également, merci à vous. Allez, on va parler d'un tout autre sujet, messieurs, parce que, évidemment, je voudrais qu'on commence à débattre le face-à-face avec donc Pierre-Henri et Jean-Pierre Colombiès. Selon la candidate du Rassemblement National, je veux parler de Marine Le Pen, il lui reste une quarantaine de signatures à récolter. Autre sujet, vous savez, c'est celui d'Éric Zemmour. D'Éric Zemmour qui se dit, évidemment, préoccupé qu'on lui apporte pas suffisamment donc de parrainage, et ça pose une question. La question, évidemment, du système démocratique. Alors, parce que, évidemment, il y a Zemmour, il y a Le Pen, et puis il y en a d'autres qui se posent la question. Aujourd'hui, faut-il changer de système ? Pierre-Henri, je voudrais vous entendre. Alors, que se passe-t-il ? Il y a de gros points d'interrogation qui sont en train de se poser. Oui. Cette récolte des parrainages qui est nécessaire, Pierre-Henri et Jean-Pierre Colombiès, pour permettre aux candidats, eh bien, de franchir le pas à cette élection présidentielle.
Oui, alors je rappelle qu'il y a 42 000 élus qui peuvent parrainer les candidats. Aujourd'hui, il y en a à peu près 10 000 qui ont donné leur parrainage. Mais il y a aussi un tableau qui est assez particulier avec un certain nombre de candidats qui, par exemple, se situent à l'extrême droite. Il faut regarder, par exemple, la candidature de Dupont-Aignan qui n'a plus aucune équipe, qui n'apparaît nulle part et qui a plus de 400 parrainages. Ouais, celle d'Asselineau qui a plus de 250 parrainages. Et donc qui ont asséché un peu le paysage autour de l'extrême droite. Parce que quand on explique que finalement le parrainage ne vaut pas soutien, le mot parrainage lui-même, ça veut dire un soutien moral. Et donc qu'un certain nombre de gens aujourd'hui ne s'engagent pas derrière Zemmour et Marine Le Pen.
Oh, mais si Zemmour ne se retrouve pas durant cette campagne, est-ce qu'il y a une question démocratique qui peut se poser ?
Écoutez,
franchement, on se la pose. En tout cas, beaucoup se la posent.
Enfin, beaucoup se la posent, surtout quand ce sont les médias qui ont monté de toutes pièces le phénomène Zemmour. Quand vous regardez le nombre de temps de parole, le nombre de minutes que Zemmour a eu sur un certain nombre de médias, il explose.
Mais vous, c'est souhaitable ou pas ? Anne Hidalgo a dit, elle estime qu'Éric Zemmour n'est pas souhaitable.
Ce que je considère, c'est que c'est souhaitable dans l'état actuel des choses, ça amplifierait la défiance à l'égard du pouvoir politique, le fait que Zemmour, par exemple, n'est pas l'ensemble
Jean-Pierre Colombiès.
C'est clair, pour moi, on est sur un barrique de poudre. Alors bon, j'exclus pas non plus la posture médiatique qui consiste à se victimiser un petit peu par rapport à la difficulté d'avoir des...
Le Pen en a 393 ce soir et Zemmour en a 350.
Donc ça suffira pas. Alors que le non-candidat, on a plus de 1000. Qui, entre nous, devrait lui apporter un peu de modestie dans le dialogue et dans le débat.
Là, vous allez installer un face-à-face qui risque de perdurer, là.
Quand on se dit non-candidat et qu'on a des groupes de pression, on a des gens qui font campagne, qui distribuent des flyers totalement détournés, qui plus est avec la candidature.
Quel rapport ?
Non, mais je vais y venir.
Je vous laisse répondre.
Rapport avec le Schumblick ?
J'aimerais déjà finir.
Partir de ce moment-là. Parler du sujet.
J'y viens. Empêcher des candidats qui représentent, et j'associe Jean-Luc Mélenchon dans l'addition, 40%.
Il a 442.
40% des intentions de vote seraient de la folie. Si demain, ni Marine Le Pen, ni Zemmour, ni Mélenchon, et ça tombe très bien, je ne milite pour aucun des trois, ni aucun des autres, ce serait parfaitement aberrant. Et quand j'entends certains commentaires, justement, comme Roussel, Véran, Anne Hidalgo, Madame Schiappa, dire que finalement ils n'ont pas réussi à convaincre les maires, tant pis pour eux, ils ne seront pas représentés à l'élection présidentielle. Je dis que c'est de la folie, c'est de l'irresponsabilité de décréter qu'on peut balayer d'un revers de main des gens qui représentent
40%. Et quel rapport avec Emmanuel Macron évidemment, on vous pose la question, Pierre-Henri.
C'est simplement qu'il est plus facile de donner des parrainages à quelqu'un qui apparaît comme consensuel et républicain qu'à des gens qui ont
une posture, qui apparaît
qui, qui ont une
le posture. Le président de la République qui apparaît comme républicain.
Qui ont une posture. Qui ont
non, mais qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai pas fini.
Qui apparaît.
Alors, répondez-lui, répondez-lui.
Non, mais, qui apparaît. Il est républicain. Il incarne.
Pour moi,
la France aujourd'hui, il mène une.
Pour moi, il y a un problème démocratique en ce moment en France lié à la politique du président de la République, Emmanuel Macron, dès lors qu'il a, grâce à la complicité de la totalité des députés de la République En Marche, qu'il a décrété de pouvoir gouverner par ordonnance, par exemple. On sait aussi que le Conseil
des ministres. Parce que les ordonnances, c'est Emmanuel Macron. Peut-être.
Oui. On sait aussi.
Ah, je comprends mieux votre pièce de théâtre. Communard un jour, communard toujours.
Si vous voulez, il n'y a pas de problème. J'assume mieux que votre préfet de police qui se réclame de la philosophie de Galifet, pour l'anecdote. Ensuite, il y a un problème. Oui, il y a un problème.
C'est pas mon préfet de police. Vous voulez parler de.
Il y a un problème démocratique dans ce pays. Qui
il y a un problème
dès lors qu'on nie l'existence des parlementaires, de la plupart des parlementaires, des partenaires sociaux, puisqu'on ne les consulte plus, et que...
Qu'il y ait un problème de rapport avec les partenaires sociaux, je l'admets tout à fait lors de ce quinquennat. Et effectivement, les partenaires sociaux sont des partenaires absolument indispensables pour faire fonctionner la démocratie. Là, nous étions sur un sujet qui est celui des parrainages. Ouais. Et qui est celui, en réalité, de la présentation des candidats. Parce que, normalement, il faut présenter 500 candidatures. Et puis, il y a eu un glissement dans les mots. On est passé de présentation à parrainage. Le parrainage, c'est un soutien moral. Moi, je comprends qu'un certain nombre d'élus ne veuillent pas soutenir Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Maintenant,
Jean-Pierre Colombet, il dit que c'est pas démocratique.
Je rappelle que Bayrou, qui est quand même un des soutiens d'Emmanuel Macron, a créé une banque des parrainages. Oui. Il y a près de 200 élus qui se sont d'ores et déjà ce soir positionnés là-dessus et qui vont donner les parrainages aux trois candidats.
C'est donc qu'il a bien senti qu'il y avait un problème.
Il a bien senti qu'il y avait un problème.
Il faut aller jusqu'au bout de ce qu'a dit M. Bayrou. Il a dit aussi qu'il fallait très probablement changer ce paradigme d'obtention des parrainages qui était devenu aberrant et qui était arrivé à bout de souffle. Donc c'est lui-même.
Il suffit de remettre le mot véritablement présentation. Parce que juridiquement, ce n'est pas un parrainage, c'est-à-dire que ce n'est pas un soutien moral. Je comprends le maire de la petite commune qui va donner son parrainage à Éric Zemmour. Je comprends que ça lui pose un certain nombre de problèmes avec sa population.
Surtout localement. Localement, il risque d'avoir des emmerdes.
Cette discussion,
ça risque de l'entacher.
On est bien d'accord.
Les habitants risquent de lui tomber dessus, monsieur le maire.
Donc ça veut dire qu'un maire ne peut pas exprimer son opinion librement, parce qu'il sait que ça va l'exposer à des problèmes qui peuvent lui tomber dessus via le préfet, via le
régional. Enfin, il y en a 32 000 qui ne sont pas exprimés aujourd'hui.
Eh bien, c'est bien dommage.
Il faut s'adresser à eux.
Peu importe. Mais je veux dire, il faut réfléchir à un autre mode, éventuellement de parrainage, mais pas comme celui-là. Je rappelle quand même que c'est François Hollande qui a instauré ce filtre justement de la non-anonymisation des soutiens, et pour moi ça pose problème. Il faut réfléchir à un autre mode de soutien via par exemple une expression populaire, imaginons X soutien.
Je pense que c'est un mix qu'il faut trouver entre des élus et...
Vous confirmez donc qu'il y a un problème aujourd'hui.
Mais qui l'a nié?
Messieurs, s'il vous plaît, je voudrais qu'on marque la dernière pause pub, et on se retrouve dans une poignée de minutes. Et là, on va parler de Mélenchon. Parce que Mélenchon, lui, il a le sentiment, en tant que candidat, qu'il peut rassembler la gauche. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent? Non, mais c'est un autre débat. On va en parler, puis on ira aussi direction l'Ukraine. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est aussi vous, 01-53-48-3000. Les informés, nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Pierre-Henri, qui est le porte-parole donc d'Emmanuel Macron du mouvement Pluriel. Également face à lui, Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de police, auteur aujourd'hui. Il est en pleine pièce de théâtre. Allez le voir, effectivement, on rappellera tous les éléments tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon, la gauche a un véritable problème puisque effectivement, elle a du mal à grimper dans les sondages, notamment Anne Hidalgo et tous les les autres, Écologie Les Verts avec Yannick Jadot, qu'on a reçu ici même d'ailleurs. Prochainement, nous allons recevoir tous les candidats ici, dans sur Beurre FM, pardon. Et puis Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui la question se pose. L'union par la base, est-ce qu'elle peut se faire? Est-ce qu'aujourd'hui cette gauche existe encore? Et puis si elle existe, est-ce qu'elle peut être incarnée par cette personnalité aujourd'hui qui grimpe dans les sondages? Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Je vous écoute, Pierre-Henri, et ensuite Jean-Pierre Colombiès.
Oui, alors, la gauche aujourd'hui a décidé de sa propre présidentielle. Grosso modo, il y a 4-5 candidats qui se disputent le fait de savoir s'ils vont atteindre les 5%. Et puis, il y en a un autre.
C'est vache. Allez, vous avez le droit à la clochette, là.
J'ai le droit à la clochette. Allez, allons-y pour la clochette. Et puis, il y en a un autre qui a décidé de concourir pour la première place de la gauche. C'est Jean-Luc Mélenchon. Parce que je rappelle que, quand même, dans ce pays, on ne peut gagner que si on a un projet et si on rassemble. Et depuis le début de ce quinquennat, Jean-Luc Mélenchon, il rassemble pas, il divise. Parce que son seul projet...
Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi vous dites qu'il divise alors qu'aujourd'hui, il a la cote partout?
Mais il a la cote partout, quoi. Il a la cote à 10%. Oui. Il a la cote à 11%.
Il a la cote dans les sondages. Il est jusqu'à 12%.
Très bien. Avec un projet qui ne rassemble pas.
On ne peut pas diviser. On ne peut pas diviser en ayant la cote dans les sondages.
Il ne sera pas au second tour parce que tout simplement la gauche n'a pas travaillé pendant ce quinquennat, n'a pas de programme et n'a pas de renouveler ses cadres. Et donc à partir de ce moment-là, elle est de fait dans une autre compétition. La compétition réelle, elle se joue par...
J'aimerais entendre nos auditeurs s'ils sont d'accord avec vous.
Je le regrette.
Au 01 53 48 3000 partout en France, je vous attends au standard, mesdames et messieurs, pour voir si vous êtes d'accord avec les propos de Pierre Henri, le porte-parole donc
du mouvement pluriel, qui est un pour mouvement Emmanuel de Macron. La société civile avec des jeunes gens formidables.
Jean-Pierre Colombiès. Alors.
Oui, non, c'est presque risible ce qui se passe à gauche, quoi. Je suis désolé, c'est fable. Là, pour une fois, je suis d'accord avec vous.
Pourquoi pour une fois? Vous l'étiez déjà tout à l'heure.
Non, vraiment.
Ah, pas tout à fait.
Bon, en même temps.
Voilà, c'est ça.
Et puis, mais moi, ce qui me navre, c'est effectivement ce spectacle de la gauche qui est fragmentée, divisée, qui sait même plus où elle va, quelque part. Alors, il monte dans les sondages, mais tout simplement, probablement, parce que c'est le jeu des vases communicants, que plus personne ne fait confiance ni au discours d'Anne Hidalgo, encore moins celui de Christiane Taubira, et j'en passe des meilleurs. Ils sont plus audibles, ils sont pas audibles. Ils l'ont pas été d'ailleurs depuis le début. Donc quelque part, les gens se raccrochent à celui qui joue un peu le rôle de locomotive, de fort en gueule, de militant un peu énergique. Mais bon, quelque part, faut savoir sur quoi ça débouche tout ça. Et si effectivement le but du jeu, c'est juste d'être le premier parmi les médiocres, il peut être le premier parmi les médiocres, mais ça va déboucher sur quoi? Moi, ça me navre cette situation. Pourquoi? Parce que il y avait de fortes idées à gauche.
Rappelez-moi votre pièce de théâtre.
Mais justement, ça n'a rien à voir.
Il vous cherche.
Oui, c'est le testament d'un communard, la création d'une république sociale. Et ça veut dire ce que ça veut dire.
On l'aura compris que c'est un homme de gauche.
C'est un des thèmes de Mélenchon. À un moment donné, il avait même un mouvement qui s'appelait la république sociale.
La commune, beaucoup ont voulu récupérer, et vous en avez hérité aussi du programme de la commune. Beaucoup, ils vous l'ignoraient sans le savoir. Vous marchez sans savoir qui vous
mais moi, vous savez, je suis quelqu'un qui vient de la gauche, qui reste fidèle à ses valeurs, mais qui aujourd'hui se retrouve autour de Emmanuel Macron, parce que c'est un choix
de
gauche.
Emmanuel Macron est le premier.
C'est pas un homme de gauche, Emmanuel Macron, pour vous?
Mais bien sûr que non. Il est néolibéral, revendiqué, assumé. Il faut être un peu honnête.
Mais moi, je crois qu'il faut que vous sortiez des clivages anciens.
Non, pas vraiment.
Mais si.
Pour en revenir à Mélenchon,
vous êtes avec le logiciel des années 70.
Je vous laisse répondre, cher ami.
Pour en revenir à Mélenchon, dont d'ailleurs la banque de données, je suis sûr qu'il y a plein de maires qui vont voter, qui ont une sensibilité macroniste, qui vont donner des parrainages à Mélenchon par charité chrétienne, quelque part.
Le maire de Cannes.
Mais tout ça, c'est des calculs politiciens. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Vous savez ce que ça va entraîner? Ça fait une désaffection d'autant plus grande de l'électorat, qui en a ras-le-bol de ne pas être représenté.
Il y a une crise de défiance.
porte-parole énorme, de monsieur Emmanuel Macron. Alors rappelez-lui.
Du mouvement pluriel. Hein.
Oui, mais enfin bon. Rappelez-lui à l'oreille qu'il a oublié de réaliser une des promesses. Enfin,
C'est vrai qu'aux yeux de tous, il a raison.
Oui, bah quand même.
Vous êtes le porte-parole. Derrière, c'est Emmanuel Macron.
Il a oublié de réaliser une de ses promesses qui était d'instaurer une part de proportionnel dans l'Assemblée nationale. Et si cette initiative avait abouti, peut-être que nous n'en serions pas aujourd'hui avec entre 60% d'abstention. C'est catastrophique. Si vous rajoutez ces 60% d'abstention à des représentants politiques, des leaders politiques qui ne représentent plus rien, c'est une catastrophe.
Pierre-Henri.
Écoutez, si vous pensez que le mode de scrutin à la proportionnelle ramène les gens vers les urnes et vers un réflexe citoyen, je signe tout de suite, mais je ne suis pas sûr que ça soit aussi simple et que, en réalité, la crise ne soit pas bien plus profonde et qu'elle ne soit pas simplement française.
Elle tient aussi à l'honnêteté des hommes politiques, des représentants politiques.
Mais arrêtez avec l'honnêteté des hommes politiques.
Ah oui.
Les politiques sont aussi des gens très engagés, sincères. Il y a une frange...
Quel rapport avec les conflits d'intérêts, par exemple?
Je sais pas, c'est vous qui en parlez, des conflits d'intérêts.
Oui, mais je parle de la représentativité et de la capacité à incarner cette représentativité.
Oui, eh bien, la plupart des hommes politiques le font, les hommes et des femmes politiques le font, et le font bien, et le font dans le plus total désintérêt.
Nous sommes bien d'accord sur ce point. Mais cela dit, à la fois, nous n'avons pas de véritable représentation populaire à l'Assemblée nationale. Et ça, vous ne pouvez pas dire le contraire.
Pourquoi il n'y avait pas de représentation populaire?
Vous avez, là encore,
je ne suis pas
militant du Front National. J'ai déjà précisé, mais c'est bien de le répéter encore. Mais est-ce que vous trouvez normal que...
Je ne sais pas, mais pourquoi vous dites ça depuis tout à l'heure? Vous nous avez dit que vous n'étiez pas chez Zemmour, une autre fois chez Le Pen.
Je suis un observateur. Moi, je suis un citoyen de la République.
Vous êtes où alors? Vous êtes où, Jean-Pierre Colombier?
Vous êtes ailleurs, comme Jobert. Vous êtes toujours dans les années 70.
Pour l'instant, je suis sur scène.
Moi,
j'ai simplement quelques valeurs. Moi, je suis désolé, j'ai quelques valeurs. Et quand on claironne.
Mais des valeurs d'où? De gauche, de droite? De valeurs de gauche, on l'aura compris.
Économiquement, je vais être très clair. Je me situe à gauche, économiquement, socialement. Après, si tu me parles de code pénal, j'aurais une certaine tendance à être de droite radicale dans d'autres sujets, dans d'autres thématiques. Et ça, entre parenthèses, bien des hommes politiques feraient bien d'avoir un peu d'honnêteté, notamment quand on parle de thèmes sécuritaires. Et ça, on pourrait.
Oula, ça va cogner sur Macron, là, je le sens.
Ah, en termes sécuritaires, excuse-moi.
C'était
pas à l'ordre du jour, mais si tu veux qu'on en parle, on peut en parler.
On en parlera à un autre moment, si vous voulez bien, les 19h45. Je sais que vous voulez évoquer ce sujet. Non, mais c'est vrai. Il veut en parler absolument. Il veut parler du chef de l'État, Emmanuel Macron.
Pas spécialement. Je vais parler du thème de la sécurité.
De la sécurité. Ce sera un autre moment.
Quand il sera candidat, on en parlera.
Et de l'honnêteté de certains ministres.
Messieurs, il nous reste peu de temps, s'il vous plaît. Parce que je voudrais quand même qu'on parle.
Sérieux.
S'il vous plaît, crise Ukraine. Pour Roland Poutine, vous savez, pour Roland, Poutine ne comprend que le rapport de force. Est-ce qu'il a raison? Parce qu'aujourd'hui, ça y est. Est-ce qu'il faut montrer finalement à Poutine qu'il y a des réactions, comme l'estime François Hollande, Jean-Pierre Colombiès?
Non mais là je crois
c'est chaud là.
Ouais, c'est très chaud, mais je crois que les gens feraient bien de reprendre leur livre d'histoire et de remonter un peu la machine à remonter le temps. L'Ukraine ne peut pas les dirigeants ukrainiens ne peuvent pas apprécier les dirigeants russes.
Vous savez ce qu'il dit Hollande? Pardonnez-moi de vous interrompre. Il accuse Zemmour, Le Pen, Mélenchon de complaisance avec Poutine.
Oui, enfin bon, je suis pas dans le secret des dieux déjà, hein, mais il est clair que je vois pas ce qu'on peut avoir comme mesure de rétorsion contre l'Union soviétique. C'est un lapsus révélateur. Parce que on sait très bien que l'arrière-pensée de Poutine, c'est de réinstaurer, de revivifier l'Empire russe. C'est clair, c'est net. Il s'en est jamais caché du reste. Hein, mais qu'est-ce qu'on peut faire réellement contre la Russie, qui aujourd'hui a pour principal allié la Chine? Et qui, de toute façon, a une puissance militaire qui
est
absolument... Aussi, tu pourrais rajouter l'Iran.
Ou l'Iran.
L'Iran. Oui. Non, mais il y a tout un... Là, c'est une partie
tout un bloc.
Non, mais là, c'est une partie d'échec. C'est clair. Et je veux dire, la démonstration qu'il a faite face à Emmanuel Macron, non pas en tant que personne, mais en tant que président du Conseil européen, c'est clair. Il le méprise totalement. Il l'a méprisé totalement.
Oui, alors... Je voudrais simplement rappeler que...
Pierre-Henri,
d'abord, attention, je vois pas lesquels. Hein.
D'abord, c'est pas très nouveau. Je rappelle qu'en août 2018, il y a eu un conflit entre la Géorgie et la Russie. à un moment donné.
Exact, donc,
Ils se sont affrontés pour le contrôle de
2014, non
l'Ossétie du Sud-Nan. C'était en août 2008.
Et 2008.
Et qu'est-ce que fait Nicolas Sarkozy cette devait être le 12 août 2008, il va négocier un cessez-le-feu. Très bien. 12 jours plus tard, qu'est-ce que fait la Russie? Elle reconnaît l'indépendance de l'Ossétie du Sud. Très bien. 2014, parce que j'en viens à Hollande, qu'est-ce qui se passe? Après la révolution orange ukrainienne, etc. Eh bien, le 18 mars 2014, le gouvernement russe annonce que la Crimée devient membre de la Fédération de Russie. Mmh. Les États-Unis protestent, l'Union européenne fait de même, l'ONU adopte une motion non contraignante, il y a 100 États sur les 193 qui votent la motion, et puis Hollande, il dit « Oh ben, je reconnais pas le référendum où la Crimée, le peuple de la Crimée se déclare majoritairement russe. » Oui, et alors? Et quoi? Ben, il se passe rien du tout. Et donc, on est exactement dans le même scénario. Et je crois qu'il faut faire très attention, parce que quand on parle de guerre, c'est grave. Y a des scénarios divers, en fait. Poutine est en train d'appliquer la méthode qu'il a appliquée pour l'Ossétie du Sud, pour la Crimée. Il n'a même pas besoin d'envoyer des troupes. Elles sont déjà sur place. Et alors, qu'est-ce que fait...
On parle de 200 000 personnes.
Devant cette violation militaire du droit international, qu'est-ce que font les Occidentaux? J'entendais Boris Johnson tout à l'heure. Alors, après avoir accueilli un certain nombre d'oligarques à la City, voilà, il en sanctionne 5, et puis il annonce une autre mesure extrêmement importante qui touchera beaucoup les auditeurs de Beurre FM, c'est on va plus aller jouer au foot en Russie. voilà. Bon, ce soir, Biden, qui regarde tout ça de très loin...
Mais il s'exprime dans peu de temps.
Voilà, il va s'exprimer dans peu de temps.
Il s'exprime.
Et la vraie question, c'est la puissance européenne. Qu'est-ce que l'Europe peut faire aujourd'hui cette question? Parce que c'est ça la vraie question. J'entendais, les Allemands ont décidé de fermer Nord Stream 2. Mmh. Ouais, très bien. Mais dites-moi, il y a des enjeux économiques derrière, parce que le gaz,
on va par exemple
le chercher.
Enfin, la France ne dépend pas trop du gaz russe, hein? Mais bon, le reste de l'Europe, oui.
Pas nous, mais le reste
de l'Europe, oui.
Et les Américains.
La France, non.
Les Américains derrière sont tout à fait prêts à nous vendre le gaz de schiste, mais le problème, c'est que le gaz de schiste, ça coûte très cher. C'est le problème de la puissance européenne qui se pose aujourd'hui.
Et il pollue. Non, mais Jean-Pierre Colombiès, pour distribuer la parole.
Il s'est passé quand même un épisode qui n'a pas été trop relevé, qui est quand même significatif, après la visite d'Emmanuel Macron, qui est allé courir vite fait, bien fait, au palais de Poutine, le chancelier allemand. Donc, quelle partition on joue? Non, mais je veux dire...
Il faut bien aller discuter, quand même.
Enfin, Emmanuel Macron n'est pas le président?
Oui, mais donc, d'accord, mais il y a des intérêts.
C'est un signe. Vous avez un président qui représente l'Europe, qui va s'entretenir à la table de 4,52 mètres de long, et vous avez le chancelier allemand qui, quelques jours après, il retourne du style, bon, bah, attendez, à nous maintenant de nous exprimer et de négocier. C'est du jeu diplomatique pur, c'est des jeux d'échecs absolus. Mmh. Mais ça veut dire à quel point Poutine se contrefout de la position de l'Europe en tant que bloc. C'est ça qui est significatif. On est hors jeu. L'Europe, dans ce conflit-là, est hors jeu. Les deux interlocuteurs...
Alors, on n'est pas hors jeu, mais on est faible.
On est même plus que faible. Enfin, je veux dire, les deux interlocuteurs qui ont du poids réel, c'est qui? C'est Biden.
Donc, finalement, vous donnez raison à François Hollande. Il faut une réaction.
Mais quelle réaction? C'est la même que celle qu'il a eue en 2014, qui consistait...
Il parle de rapport de force, messieurs. Est-ce qu'il faut un rapport de force?
Et qu'est-ce qu'il a fait en 2014? Quel rapport de force?
C'est vrai.
Le rapport de force... Parce que je vais poser d'autres questions. Qui est prêt à mourir pour Donald?
C'est clair.
Hein? Franchement, bon. Donc, il y a une violation du droit international. Nous devons sanctionner la Russie de Poutine. Maintenant, au-delà des sanctions économiques qui pourraient aussi se retourner
contre nous,
La partie est extrêmement difficile.
Alors, Vladimir Poutine, le président russe, donc, a ordonné à son armée d'entrer dans ses territoires et d'assumer donc les fonctions de maintien de la paix. Ça, bon, c'était il y a quelques heures. Mais surtout, c'est que l'Union européenne approuve un paquet de sanctions qui feront très mal à la Russie. C'est là où je dis, ça y est, on est rentré dans une autre dimension. La guerre, ça y est.
C'est un discours qui nous est adressé à nous, aux opinions publiques, mais pas entre eux. Là, c'est les grands qui se battent entre eux. Là, c'est les costauds. C'est pas le peuple, comme il l'a dit fort justement, qui va aller se battre.
Oui, on est encore d'accord. Finalement, on va se retrouver sur le deuxième.
Vous allez finir macronise, vous. Non, jamais.
Mais par réflexe républicain, j'espère bien qu'au deuxième tour, en cas de.
Alors ça, c'est indigne. Ça, vous n'avez pas le droit de dire ça.
Et pourquoi donc?
Le vote républicain.
Alors ça veut dire quoi le vote républicain?
Écoutez, on l'a vécu avec ce soulèvement populaire républicain. Jacques Chirac et
oui, mais c'est un faux débat.
Et Le Pen.
Donc ça veut dire que
c'est un faux débat. C'est un faux débat.
Répondez à cette question simple. Le Front National n'est pas
républicain. Non.
Oui, trouve que les thèmes qu'ils défendent, ne sont pas républicains, sont hors de la République.
Alors pourquoi on ne l'interdit pas toute l'année et pourquoi on le laisse gentiment aller jusqu'au deuxième tour?
Parce que
ça arrange celui qui est au deuxième tour aussi.
Parce que le peuple français va mettre hors jeu une nouvelle fois le Front National, et je compte bien aussi sur votre soutien, cher monsieur, en tant que républicain.
Oui, mais le républicain que je suis, il aime bien que toutes les expressions républicaines s'expriment.
Eh bien, merci, messieurs. Du second, vous avez parlé. Merci, messieurs. Merci, Jean-Pierre Colombier. Sera plus vite la pièce de théâtre.
Le testament d'un communard.
Oui.
Le testament d'un communard. Voilà, dit fort.
Où précisément?
Au Darius Milhaud, à Paris 19e, où j'y parle de république sociale et de combat mené par des gens du petit peuple.
Allez-y, c'est pas mal, évidemment, si vous voulez vous divertir, changer d'air, etc. Allez-y, voir Jean-Pierre Colombès, auteur, donc une comédie absolument. Merci, monsieur le porte-parole.
Merci,
Pierre-Henri. À très vite, au plaisir de vous retrouver ici. Porte-parole du mouvement donc pluriel, fondé par Karim Amlal, et vous l'aurez compris aussi, porte-parole indirectement, forcément par la force des choses, d'Emmanuel Macron. Mais il y a du boulot, non?
Il y a du travail.
Merci à la réalisation, à Yanis, merci à toutes celles et ceux qui nous ont appelés, vous avez été très nombreux, malheureusement j'ai pas pu vous prendre tous, on a été pris par le temps au 01 53 48 3, mais on remet ça demain. Tout de suite c'est Time Sport dans une poignée de minutes, 20h-21h, à demain, on ne lâche rien, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.